Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous et très bonne fête. Merci d'être là. Voilà, c'est le dernier De quoi je me mêle pour cette année 2023. On va s'accorder quelques jours de congé. On sera de retour donc tout début janvier. Évidemment, je suis ravi d'être à vos côtés pour votre heure dédiée à la tech. Évidemment, sur BFM Business, vous le savez, le samedi et le dimanche, mais aussi sur la chaîne YouTube, sur la plateforme Tech & Co. Avec au sommaire, pour ceux de quoi je me mêle, tout à l'heure, on va se projeter un petit peu et s'intéresser à la 4K et notamment à la TNT 4K. Vous savez que pas mal d'événements arrivent l'année prochaine, les JO, il y a du foot aussi. Eh bien, la plupart de ces événements seront retransmis en 4K sur France Télévisions. Et ça y est, la TNT 4K arrive, on en parlera avec Lionel Paris, qui est notre spécialiste dans ce domaine et qui nous expliquera tout ça. Est-ce qu'il faut changer de télé? Comment ça va marcher? Est-ce que ce sera partout en France? On fera le point. Je vous rappelle aussi le hashtag DQJMM si vous voulez évidemment converser avec nous, réagir à tout ce qu'on raconte. Vous êtes les bienvenus et merci d'être là. Et pour ce dernier De quoi je me mêle de l'année, attention, on va se faire plaisir avec Mélinda d'Avansoulas qui est là. Mélinda, bonjour.
Hello François, hello Anthony.
Waouh, la couleur rouge fait penser un peu au Papa Noël.
je me suis mis en tenue de circonstance, c'était ça ou le pull de Noël?
Oui.
Fallait choisir.
Ah écoute, le pull de Noël ça aurait été rigolo aussi, mais là c'est bien, ça nous va. Et puis Anthony est avec nous, salut Anthony.
Salut François, salut Mélinda. Moi j'avais une autre référence, on est bleu, blanc, rouge là.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais, bah, pas mal. Voilà. Bah écoutez, voilà, nickel. Pour terminer l'année, c'est mais cool.
Exactement.
Voilà. Anthony, que vous retrouvez sur BFM Business. Mélanie, Mélinda, que vous retrouvez aussi sur la plateforme Tech & Co. Et pour cette dernière de l'année, si on se faisait plaisir, on est à quelques jours maintenant de Noël. Peut-être avez-vous encore quelques trous dans la raquette concernant les cadeaux. Qu'est-ce que vous allez mettre sous le sapin? Eh bien, on a quelques idées à vous soumettre. Les coups de cœur de la rédaction de Tech & Co, c'est maintenant. Mélinda, Anthony, ils ont leur petite liste. Mélinda, forcément, on va commencer par toi.
Pourquoi? Parce qu'il y en a le plus?
Parce qu'il y en a beaucoup. Franchement, Mélinda, là, elle me bat à plate couture déjà. Quand tu vois le l'amas de trucs qui est là à côté d'elle.
C'est bon. On se croirait dans une brocante. Tu sais, ouais, t'as ton stand de brocante et tu dis, voilà, regardez, j'ai tout ça pour vous.
C'est pas la maison du Père Noël François ici?
Je comprends. Oui, c'est pas. Ça, c'est exactement.
C'est la brocante.
J'ai les lutins qui arrivent pour tout emballer.
La brocante luxe hein, quand même, hein, parce que à mon avis, t'arrives là, il y en a pour un peu de.
Oui, il y en a pour un peu d'argent. Ouais. Et vous allez voir, il y a des trucs vraiment cool. Peut-être commencer par cette petite enceinte toute mimi.
Je vois que tu as l'œil dessus depuis tout à l'heure.
Ouais. Un peu vintage.
Et complètement vintage, tu veux
à la
dire.
Cool.
Alors, c'est la Roberts Revival Petite. Bon, petite, on comprend un peu l'idée. Je ne sais pas si vous connaissez Roberts comme marque. C'est une marque britannique qui a 90 ans. Et en fait, c'est un grand du son en Angleterre. C'est surtout la marque de la famille royale. Alors, pas qui appartient à la famille royale. C'est la marque qui, depuis les années 40-50, en fait, a ses enceintes qui sont dans Buckingham. Mais achetées par la famille royale. Parce qu'en fait, le père d'Elisabeth adorait cette marque, donc elle avait acheté une enceinte. Elisabeth a eu, depuis donc, les années 50, tous les modèles qui sortaient dans Buckingham. Ça doit quand même pulser. Ça, c'est en gros la version miniaturisée du modèle iconique Revival des années 50.
Allez, je vais la montrer. Elle est trop mimi, regardez-moi ça.
Regardez, elle est toute petite, mais alors ne vous fiez pas à son petit gabarit, parce qu'elle envoie quand même du son. Elle existe en plusieurs couleurs, et surtout, elle fait donc connexion Bluetooth, et évidemment pour votre musique, auxiliaire, il y a une prise auxiliaire, il y a la radio, tout ce qui est radio numérique, donc DAB+, les fréquences FM, le petit bouton pour faire à l'ancienne, ça t'aime bien ça.
J'adore.
Il va nous faire de l'ASMR avec, en fait.
Ouais. C'est ça.
Ah, le petit côté vintage, là, c'est
classe. Non, c'est trop cool.
Le petit côté vintage, cuir.
Et puis, on sent que c'est de la quali.
C'est hyper quali. Chez qualité. Roberts, honnêtement, pour connaître bien les gammes, ce ne sont que des produits qui, en plus, sont faits encore là-bas. Il y a ce côté un peu vraiment rétro qu'ils essayent de garder, malgré tout. Alors, ça se ressent aussi un petit peu dans le prix.
Ah.
On est à 120€. Elle a 20 heures d'autonomie, donc vous pouvez partir, faire les fêtes avec tranquillement, mais voilà, moi j'aime beaucoup, elle existe dans plein de couleurs pop comme ça, ou en noir plus sage et plus sobre, si vous préférez.
Trop bien.
Pas mal du tout. Hein.
Franchement.
Ah, j'aime bien. Puis la petite histoire racontée à tes amis qui arrivent, oui, ils ont la même à Buckingham. C'est assez classe.
Mais tu pourras leur dire que Elisabeth avait donc le grand modèle avec Spotify Connect. Je ne sais pas si elle savait s'en servir, mais au moins ça trônait dans Buckingham.
Qu'est-ce qu'elle écoutait, ça,
j'aimerais bien savoir. Ils ont la même à Buckingham et c'est Julia aussi qui a la même, forcément.
Oui, je l'ai.
C'est bon. Bah oui.
Peut-être expliquer. Julia, vas-y.
Julia, Robert.
Non, j'ose même pas.
Julia, il faut le dire.
J'ai un peu honte, excusez-moi, là je commence
à rougir. Elle est bien placée.
Ouais. Ouais.
Elle est validée.
Okay. Bon, allez, on passe à autre chose. mon cher Anthony, qu'est-ce que tu as pour nous en rayon?
Qu'est-ce que tu as
T'as un picoprojecteur, t'as des écouteurs.
Oui. Ouais, écouteurs, si on veut rester dans le domaine du son, comme vous voulez. Les petits écouteurs, on peut
commencer
avec ça.
Allez, les écouteurs, on y va, parce qu'on est dans le son.
Ouais, exactement. Alors les écouteurs, vous allez me dire, il y en a 10 000 modèles sur le marché, ça c'est vrai, il y en a beaucoup, et c'est pas facile de s'y retrouver.
C'est péché mignon, les écouteurs.
Ouais, je sais, moi aussi, j'en ai pas mal.
J'adore ça, j'écoute, je teste tous les trucs. Ça.
Et tu connais cela, Denon, tu connais cette marque qui est une marque japonaise, très connue évidemment. Ils ont racheté...
La marque mythique de hi-fi japonaise.
Absolument. Et ils ont racheté une entreprise, alors que tu connais aussi parce qu'on en a discuté, Melinda, c'est Noura.
Noura, voilà.
Et en fait...
Tu sais qui c'est qui a racheté tout ça?
Oui.
C'est Massimo.
Oui, Massimo, exactement. Ouais,
Massimo
absolument.
Qui est au cœur de l'actualité en ce moment avec les brevets de l'Apple Watch.
Exactement. Incroyable. C'est vraiment l'actu se recoupe, effectivement.
C'est fou, ça.
Et donc, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces petits écouteurs qui sont un tout petit peu encombrant, ça fait un peu boucle d'oreille, mais la particularité de ces écouteurs, c'est qu'ils vont faire du son sur mesure. En gros, c'est une technologie qui a été empruntée à Noura.
Complètement reprise.
Complètement recoupée, ils ont racheté, donc ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et donc, en gros, le principe, c'est que quand tu mets ces écouteurs pour la première fois dans les oreilles, donc c'est relié à une application évidemment, on va te faire passer des tests auditifs, comme quand tu vas chez l'ORL. On va tester la réactivité de ton oreille interne à certains types de sons, à certaines intensités, et en fonction de ça, on va dresser un profil auditif de toi qui ne va pas être le même pour François, pour Melinda, pour Anthony. Et en fait, en fonction de ton profil auditif, quand tu vas écouter de la musique ou des podcasts, le son va être beaucoup plus profond, beaucoup plus clair. Et si moi, je prends tes écouteurs avec ton profil sonore, ça va être complètement plat, pour te le dire comme ça. En gros, c'est du son sur mesure, la différence entre porter une paire de moufles et porter des gants sur mesure. C'est
d'accord,
un peu ça.
Pas mal.
Et le résultat est quand même assez bluffant, je dois dire.
C'est un peu comme le trouplet de Bose, en fait, de Sonos. Il va adapter le son par rapport à la pièce. Donc là, il adapte le son par rapport à ton conduit auditif.
C'est exactement pour ça. On t'envoie en fait un signal et on voit les fréquences que tu prends dans l'oreille. Et donc, ensuite, ta musique sera adaptée à ton profil. Mmh. Et ce qui est pas mal, c'est que si tu as de la perte auditive, forcément...
On en avait parlé dans le tour de la question.
Exactement.
Voilà, pendant le Black Friday, je m'en souviens très bien.
Donc, je trouve que c'est une super bonne idée. Alors là aussi, ça pique un peu au niveau du prix. On est sur 350€. Donc pour des écouteurs, ça tabasse quand même un
peu. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le résultat, franchement, voilà Anthony, c'est ça la question. Est-ce que tu sens une différence?
Ouais, franchement, j'ai trouvé ça vraiment pas mal.
D'accord.
J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Après, voilà, encore une fois, il faut mettre le prix. On trouve des écouteurs à beaucoup moins cher qui sont très qualitatifs. Ça, il n'y a pas de souci. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir pour les mélomanes, il y a quand même cette option-là est intéressante. Je trouve.
C'est la qualité du son des Denon, il faut quand même le savoir.
Ouais.
Plus ce petit aspect, on va dire médicalisé, mais ce n'est pas médicalisé du tout. Mais dans l'idée, moi, ce que je trouve, c'est que c'est surtout un pari sur le long terme. Derrière, Massimo, on l'a dit, qui a racheté Sun United, la maison mère de tout ça, ils veulent quand même penser à long terme. Si votre audition baisse, les écouteurs, vous pourrez toujours les utiliser, en fait. C'est ça que je trouve bien. C'est ce côté, ce profil, vous le faites une première fois, mais il n'est pas figé dans le temps. Si l'année prochaine, vous avez des problèmes d'audition,
tu refais un scan,
vous le refaites,
et c'est reparti.
Et ça change. Et honnêtement, quand on écoute avec ou sans, on entend la différence.
Ouais, d'accord.
C'est intéressant de voir cette notion de médical dont tu parles. C'est-à-dire que ça va être de plus en plus un aspect, dans les
évidemment,
AirPods aussi.
Évidemment.
Apple, ils travaillent aussi sur se servir des AirPods comme aide auditive, se servir de mettre des capteurs pour analyser la position du dos. Enfin, en tout cas, voilà, ça va devenir aussi... comme les montres connectées, comme la petite bague dont je vais vous parler tout à l'heure aussi, des petits accessoires de santé dans notre vie quotidienne.
Ouais, c'est cool. Et c'est intéressant de voir Massimo, on va terminer là-dessus avec eux, mais qui rachète en fait toute cette flopée de marques prestigieuses de son pour petit à petit intégrer des éléments santé. Mmh. Et demain, là-dedans, on aura fréquence cardiaque, plein de trucs, quoi.
Ouais,
plein de trucs comme ça, c'est ça qui est cool. Ah, t'as vu, ça fait... très bien.
Déchargé, c'est juste ça. Mais...
Denon, marque que j'adore. Enfin, franchement,
très belle marque.
C'est une marque qui est moins connue aujourd'hui.
Qui a beaucoup plus la cote il y a 20-30 ans.
Voilà, 20-30 ans, c'était vraiment le top du top en matière de mini-chaînes. Enfin, il y avait plein de systèmes audio Denon. Et c'est bien qu'ils reviennent. Melinda, si on se faisait le coup de cœur commun que vous avez tous les deux, avec cet appareil qui s'appelle une tablette Bugali.
Alors, c'est pour les petits, hein, pour le coup.
Ceci est une console sans écran. Ouais. je tiens à vous le dire, c'est comme ça.
C'est pas un pèse-personne.
Alors non, ce n'est pas la Wii Fit. Ce n'est pas la Wii Fit d'antan.
Wii Fit, oui,
c'est pas, pas la Wii Fit d'antan. Peut-être qu'ils ont recyclé le modèle, mais ce n'est pas ça. Non, non. Il y a aujourd'hui, on le sait, les enfants, ils adorent les objets tech, ils adorent les écrans. Donc comment est-ce qu'on arrive à leur apprendre encore quelque chose, à leur donner surtout le goût de la lecture qui se perd, sans être obligé de leur donner une tablette, un ordinateur ou quoi que ce soit. Ça, c'est français. Alors nous, on a quand même, avec François dans cette émission, une certaine continuité, une certaine fidélité, puisqu'on les suit depuis le début.
Et on les avait eus au CES.
On les avait eus au CES. Et sur cette tablette, c'est en fait, on va venir mettre un livre qui est quand même un livre de chez livre, j'ai envie de dire. Un livre ultra basique, avec bah, des images, du texte, enfin voilà. Des choses toutes bêtes, un livre qui se lit comme ça, sauf que quand on le met sur la tablette, eh bien, il prend une autre dimension, ça devient une expérience de lecture, avec la possibilité que l'histoire soit lue à l'enfant, mais aussi que l'enfant, en fait, s'approprie l'histoire et se la fasse lui-même, c'est-à-dire qu'il va appuyer eh bien, sur un des personnages qui est dessiné, et soudainement, ben, le personnage va se mettre à parler, et ce sera un dialogue qui n'est pas le dialogue qui est écrit, c'est un autre dialogue. Les animaux vont faire des bruits, il va y avoir des comptines, des choses, et en fait, ça rend la lecture extrêmement vivante et vraiment immersive, en fait. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'un écran pour que ce soit tout de suite immersif. Le papier fait encore très, très bien l'affaire. Je trouve que c'est bien. Lecture en anglais ou en français, donc ça, c'est le petit plus qui est intéressant.
Ouais, ouais.
Après, voilà, on est sur un produit made in France qui n'est pas forcément donné, puisqu'on est à quand même à 150 euros avec deux livres inclus.
D'accord.
Après, vous pouvez acheter des livres supplémentaires, c'est une quinzaine d'euros.
Et c'est des livres dont ils doivent être compatibles avec le système.
Exactement,
hein.
Exactement. C'est des livres qui s'achètent, qui sont des livres Bugali.
Il y a du choix ?
Oui, parce que pour le moment, ils en ont 25. L'année prochaine, il y en aura 60. Donc c'est quand même une bibliothèque qui va grossir.
Ouais, puis après, ils ont signé des partenariats avec des grosses maisons d'édition. Alors, vous voyez, moi je connais pas, j'ai pas d'enfants, mais je connais par exemple Paco, je crois que c'est une grosse saga de livres pour enfants. Enfin,
ils ont aussi adapté des livres de la littérature enfantine avec les auteurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont fait avec les auteurs pour que l'immersion ajoutée à l'histoire soit quand même dans le respect de l'œuvre initiale. Okay. C'est Fleurus, c'est Gallimard Jeunesse, c'est quand même des grosses maisons d'édition.
Et c'est aussi ce qui explique le prix d'ailleurs, parce que c'est vrai que bon, le prix, c'est pas donné. Alors, c'est made in France, hein, c'est fabriqué du côté de Bayonne, donc ça aussi un coût.
Ouais.
Voilà. Bleu, blanc, rouge, voilà. Mais c'est aussi parce que c'est un vrai travail, y compris au-delà de l'écriture des bouquins. Derrière, bah, c'est des comédiens qui vont devoir rejouer toutes les voix. Il y a un système de doublage. Enfin, c'est un travail d'orfèvre, en fait, derrière, pour que l'enfant, à chaque fois qu'il appuie sur un élément du bouquin, l'élément prenne vie avec des voix différentes, des intonations différentes. C'est du boulot, mais c'est aussi des gens qu'il faut embaucher, qu'il faut payer. Tout
ça. La créativité va au-delà du bouquin, finalement.
Exactement.
Il faut trouver plusieurs lectures.
Il y a des artistes qui font les dessins. Enfin, c'est une vraie petite équipe. C'est pas une IA qui se contente de lire mot après mot le truc pour l'enfant.
Alors, pour être
un peu taquin,
est-ce que ça va pas enlever l'envie de lire aux enfants? Parce que finalement, si j'ai bien compris, tu poses le bouquin là-dessus et tu vas avoir l'histoire qui va être racontée en audio et avec de l'interactivité, etc. Mais est-ce que les enfants ne vont pas avoir plus envie de poser ça sur leur tablette que de prendre le bouquin et de le lire de manière traditionnelle, on va dire ?
Je pense que ça crée un réflexe, c'est-à-dire qu'un enfant, notamment quand il est petit, il a besoin de toucher les objets. On va en parler avec Claude après. Il a besoin de sentir. Là, on lui donne l'opportunité de toucher un livre, voilà, pour regarder les images, qui vont s'animer en fait sous ses doigts. Donc il devient complètement maître de son activité de lecture. Et donc, je pense que, au contraire, alors peut-être qu'il aura, comme beaucoup d'enfants, vous savez, quand vous les mettez sur des écrans, ils ont compris que c'était tactile, et que vous les mettez sur des écrans qui ne sont pas tactiles, ils continuent quand même. Il continuera peut-être sur des livres. Mais je pense qu'au contraire, ça va redonner ou un goût de lecture à des enfants qui, aujourd'hui, bah, on le sait, sont de moins en moins happé par les livres.
Surtout, c'est pour les tout petits, hein, pour le coup, c'est pour les 6 ans, 7 ans. Mais effectivement, et moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est à cheval entre le livre classique et les conteuses qu'on a de plus en plus maintenant, tu sais, les Luni, etc., qui fonctionnent très, très bien aussi, qui sont très populaires auprès des enfants. Mais là, comme tu disais, tu as quand même le livre physique. Donc, tu as ce truc où l'enfant, bah, il tourne les pages quand même. S'il est tout seul et qu'il n'y a pas les parents, bah, il peut quand même lire l'histoire tout seul et avoir l'histoire.
Ouais, et puis, tu peux créer un jeu en disant, à partir du moment où il a lu et compris l'histoire, bah, il a accès après à toute la richesse multimédia en posant le bouquin sur la tablette.
Ouais. On ne l'a pas dit pour rassurer les parents, il n'y a pas de connexion à cette tablette. La seule, c'est le livre, c'est de la NFC en gros, il n'y a pas de connexion. La seule connexion, c'est le parent qui a l'application qui va avec,
d'accord,
et qui peut faire des mises à jour. Mais l'enfant, lui, il est déconnecté, il n'y a pas d'écran. Donc, il a l'impression d'avoir un objet tech.
Ça marche sur batterie, en plus ?
Oui, c'est une batterie qui tient en plus assez longtemps. Mais justement, l'enfant, il a la croisée des deux mondes. Il a ce côté très manuel, très physique, du livre palpable, et puis on lui donne un objet, donc il comprend qu'il y a quand même un peu de technologie derrière, qu'il peut manipuler. Moi, j'aime bien le mélange des genres.
C'est assez sympa. Après, le seul petit bémol que j'ai trouvé, alors je ne sais pas, parce que j'ai testé avec plusieurs livres et j'ai trouvé...
La reconnaissance de certains ?
Ouais, exactement. Ouais. J'ai trouvé qu'il y en a qui étaient hyper réactifs, mais c'était un truc de fou. J'ai trouvé... C'était presque magique, en fait. Et pour d'autres... Ça fonctionnait un peu moins bien. Quand t'appuyais sur le texte, fallait appuyer à un endroit vraiment précis, sinon ça marchait pas. Donc je sais pas en fait si ça vient du côté des éditeurs ou quoi, mais je pense qu'il y a certains bouquins qui fonctionnent mieux que d'autres.
Pense qu'il y a des éditions. Je pense aussi qu'on a peut-être une version un peu
bêta.
C'est sorti tout ça, on peut l'acheter.
Désormais, c'est disponible depuis début novembre. Ça, c'est pour le coup. Et il y aura plein. Il y a une grosse bibliothèque quand vous allez sur le site de Bugali. Pour choisir les œuvres, en fait.
Voilà, Bugali, B-U-G-A-L-I, tout simplement. Voilà, cadeau original et 100% français, ça fait du bien. Anthony, petit picoprojecteur, parce que moi, j'adore ce type d'appareil.
Ouais, moi aussi.
C'est top parce que ça peut se substituer parfois à une télé.
Exactement.
Voilà, alors bon, bien sûr, il faut être dans la pénombre. Il est tout petit, celui-ci.
Microscopique.
Alors parle dans le micro parce que t'es loin du micro.
Ouais,
là,
pardon, excuse-moi,
si t'entendre.
J'essaye de lancer la vidéo en même temps, de faire une petite démo. Je sais pas si ça va rendre grand chose parce qu'on est quand même dans un studio qui est très lumineux et que je vais le faire sur une feuille A4. Donc si tu veux, on n'est pas dans les meilleures conditions possibles, mais c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne.
Nous, on voit super bien. Je sais pas ce qui se passe là, mais on voit un peu là.
On voit un peu quand même.
Écoute, j'ai le retour là. On voit quand même la projection.
Ok. Bon, là, effectivement, là, c'est pas les meilleures conditions, mais croyez-moi sur parole.
Ton film a l'air bien. Tu peux rester 2 heures comme ça, s'il te plaît?
Ah, mais c'est très bien. Je vais rester comme ça, je ne bouge plus.
Je ne bouge plus.
Non, d'accord. C'est pas mal. Alors, il me dit que la batterie commence à être déchargée, par contre. Bon, très bien. Mais en gros, le principe, je le décris pour ceux qui nous écoutent, mais c'est 10 cm sur 10. C'est vraiment un carré, ça pèse moins de 300 grammes. Ça tient dans
on
une poche.
On dirait Apple TV.
Mais j'aime bien le côté carré et coloré. Ah, moi, je trouve ça très sympa.
Alors là, j'y ai branché ma clé USB parce qu'on peut y mettre une clé USB.
Qui est limite plus grande.
Qui est limite plus grande que le truc, t'as raison. Et en fait, tu le replies et t'as un petit carré qui tient dans la poche très simplement. C'est ViewSonic qui fait ça, donc c'est le M1 Mini qui est sorti déjà il y a quelques années. Alors, il y a eu différentes versions. Mais je trouve que c'est hyper malin. Comme tu le disais, on a toujours le débat vidéoprojecteur contre télé dans son salon. Là, pour moi, c'est un usage un tout petit peu différent. Ça va être plutôt intéressant, par exemple, quand tu es en déplacement, quand tu es en voyage, où tu vas pouvoir brancher ça soit une clé USB, soit ton smartphone, et tu vas pouvoir avoir un écran projeté 2 mètres de diagonale quand même en bonne qualité, on va dire. C'est quand même pas mal, tu vois. J'ai pris quelques specs juste pour que vous ayez quelques idées. 120 LED lumen, un haut-parleur JBL intégré. Quelques petites données comme
donc
ça.
Donc là, c'est connecté, mais à l'intérieur, tu as un système d'exploitation qui te permet d'avoir Netflix, etc., etc.
Alors, il faut que tu le connectes à un appareil à ce moment-là. Tu ne peux pas avoir directement... Donc, tu le relis à ton smartphone, par exemple, tu peux diffuser Netflix.
Ah, c'est ça, fait comme un mirroring, en fait.
Exactement.
Okay.
Exactement.
Mais si tu le connectes au Wi-Fi, tu n'as pas un système de téléconnecté à l'intérieur.
Il faut que tu le connectes à un appareil. Mais ce que je te disais, intéressant en mobilité, intéressant aussi comme système d'appoint dans une chambre. Dans le salon, c'est mieux d'avoir soit une vraie télé, soit un beau vidéoprojecteur. Mais là, on a un appareil qui coûte évidemment beaucoup moins cher. On est sur du 170 euros à peu près.
Oui, c'est pas le même usage.
Donc, c'est pas le même usage, c'est pas le même budget qu'un vidéoprojecteur à 2000 euros ou moins. Mais tu vas avoir dans ton salon, même à 700, 800 euros, il y a déjà des très bons modèles. Mais je trouve que c'est un produit d'appoint assez intéressant.
Pas mal.
Et donc, une bonne idée de cadeau de Noël
idée de cadeau pour les parents qui vont partir avec leurs enfants et qui ne savent pas quoi en faire et qui, comme ça, vont avoir la paix en trouvant un bon mur blanc.
Oui, exactement. Ouais. Alors, attends, l'été, t'imagines, sur le mur du jardin sur un drap blanc, tu branches ça à une console de jeu.
C'est le roi du pétrole auprès des gosses.
C'est génial, quoi, à la belle étoile.
Et donc, il y a de l'HDMI, tu peux connecter une console de jeu.
T'as de l'HDMI sans aucun problème. T'as un port USB-A, un port HDMI, un port USB-C.
Niveau autonomie, ça fait quoi, tu as dit ?
Niveau autonomie, alors j'ai plus le chiffre en tête. De mémoire, c'était une dizaine d'heures, je crois.
D'accord. Voilà. Oui, c'est bien.
Pas mal.
Mais vraiment, bon petit cadeau, je trouve.
Ouais, sympathique. Après, évidemment, il faut être dans la pénombre. Parce que là, si vous êtes en plein soleil, en plein cagnard, vous ne verrez rien. Mais c'est vrai que quand les longues soirées d'été sont bien agréables, ça peut être cool de se projeter un petit film comme ça en famille. C'est très sympa. On poursuit. Mélinda, qu'est-ce que tu as en rayon ?
Allez. Alors, on continue sur les enfants.
Allez,
je vous montre ça parce que c'est rigolo. Hop, je vous ai mis. Alors, j'évite de vous mettre trop le son parce que ça va hurler.
Non, mais vas-y.
Alors, ça va partir. Voilà, ça s'appelle la Toonie Box. C'est exactement dans la même idée de faire aimer la lecture aux enfants sans leur donner des écrans et quoi que ce soit. C'est une boîte à histoire, une boîte de lecture, je ne sais pas comment vous l'appelez ça. Et en fait, ce qui est rigolo, j'ai baissé le son pour pas que ça hurle trop, c'est que vous allez mettre une petite figurine. Vous avez vu, c'est vendu avec plein de figurines. Alors là, je vous en ai amené quelques-unes. Donc, Spider-Man, Peppa, Là, vous avez, les parents reconnaîtront Pat' Patrouille. Et il y en a plein, la Reine des Neiges, le Roi Lion, et des petites figurines aussi très mignonnes, des chats, des reines. En fait, à chaque fois, il y a un pack d'histoires avec. Donc là, Spider-Man, il va se mettre à raconter. Alors, je ne sais pas si on entend. Si on...
Vas-y, vas-y, mets plus fort.
C'est pas déclenché. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de danger.
Donc là, il va y avoir plein d'histoires avec Spider-Man qui vient dans son lot avec la box et avec trois petits personnages de Spider-Man, ses amis, et à chaque fois, et normalement, j'essaie de ne pas vanter, voilà, hop, vous faites ça, vous avez passé à l'histoire suivante.
Ok.
Voilà, avancer, reculer.
Quand tu achètes une petite figurine, tu achètes la figurine, mais aussi contenu.
Du contenu, voilà. Alors donc, ça va de 30 minutes certaines figurines jusqu'à 90 minutes, 1 heure, 2 heures. Et en gros, vous pouvez charger sur la Toonie Box des dizaines et des dizaines d'heures en mettant juste les figurines, comme ça, hop, ça les déclenche. Donc chacune a son petit pack d'histoire. Je trouve que pour les enfants, alors c'est pareil, on s'adresse à des petits.
Oui, bien
évidemment,
sûr.
Vous avez vu, c'est hyper costaud, hyper résistant.
Ouais, ouais, c'est bien. Ouais, ouais, ça a l'air.
7 heures d'autonomie. Petit avantage, vous pouvez brancher un casque. S'il part avec en voiture, et vous n'êtes pas obligé de vous taper tout le voyage avec des histoires de Peppa Pig. Parce que si là, je vous le mets...
Bon, après, c'est le plus gros baladeur MP3 au monde. Hein.
Ouais. Dans ce cas-là. C'est exactement ça. Parce que si je mets Peppa Pig, là, vous avez le générique dans la tête toute la journée. Hein.
Ouais,
est-ce que tu as un système... Parce que moi, ça me fait penser un peu... À un moment, il y avait les Skylanders pour les jeux vidéo.
C'est le même
c'est sur la Wii, comment ça s'appelait, où il y avait
une
spéculation de fou.
T'avais tous les Disney
figurines.
Infinity et les trucs comme ça. Ouais.
Et est-ce qu'il y a un système aussi où ton personnage gagne des niveaux, etc. Ou c'est vraiment juste à la figurine, et là, c'est vraiment pour les petits. Donc
peut-être que ça évoluera parce que pareil, il y a une application compagnon avec plein de choses. Non, pour le moment, c'est chaque personnage a son lot d'histoires. Et donc, tu vas charger le lot d'histoires du personnage. Ça veut dire aussi qu'il pourrait y en avoir d'autres qui vont être ajoutés au fur et à mesure. Mais on achète une Toonie Box avec une petite figurine Tony et après, un pack de 3. Donc ça, en fonction, il y a des comptines, il y a des petits bonhommes, ce ne sont que des comptines. Il y a un truc que j'aime beaucoup, alors je ne voulais pas ramener là. C'est un petit personnage, c'est un petit chat qui dort. Vous le posez dessus. Et en fait, lui, il est dédié à la sieste, au temps de la sieste.
Ah,
donc, il va raconter ou des petites histoires très, très calmes, ou de la musique, diffuser de la musique très, très calme. Et il y a
pour endormir, en fait.
Voilà, la sieste en bruit blanc, par exemple, pour les enfants, mettre. Donc, voilà, c'est très rigolo. Il y a plein de petites figurines comme ça. Et
C'est balèze parce qu'ils ont signé des gros partenariats. Toutes les figurines Marvel,
ils
Disney,
sont pas, ils ont un gros
Patrouille, Peppa Pig, c'est quand même
les princesses,
gros...
toutes les princesses.
Ouais.
Donc, et c'est qui est derrière ça?
Alors, ça s'appelle Toonie.
D'accord.
Tony, la boîte, mais en effet, ils ont obtenu pas mal de licences. Ouais. Et en plus, voilà, ça on sait.
En vendre, hein, pour rentabiliser le truc. Parce
ça,
que...
c'est du merchandising de folie. Enfin, y a 3 figurines comme ça, Spider-Man. Un enfant qui est un peu fan de Spider-Man, il va surtout prendre les figurines et écouter un peu moins les histoires au fil du temps. On est à 100 euros, en fait, en gros, la box. Et 3 petites figurines, entre 100 et 120, en fonction de ce que vous prenez, évidemment. Okay.
Puis s'il y a de la demande, ils vont être malins. Ils vont faire comme les trucs Funko, tu sais. Ou ils vont sortir des versions alternatives, avec peut-être une histoire exclusive, avec telle ou telle figurine.
Bah là, il y avait un petit renne, c'est les histoires de Noël.
Ouais.
Et voilà,
ouais.
Ça c'est fait. Et je crois qu'après, c'est une quinzaine d'euros, un petit pack comme ça, avec la petite figurine.
Ouais, trop mignon. Parfait. Anthony, on va passer au lourd quand même maintenant avec les smartphones quand même.
Ouais,
parce que
bien sûr. Bah oui.
c'est aussi le moment où on peut se faire plaisir avec des cadeaux un petit peu plus costauds, des cadeaux pour adultes, on va dire. Et c'est vrai que cette année 2023 a été aussi une très bonne année en matière de nouveautés smartphones. Évidemment, bon, il y a les iPhones, on ne va pas en parler. Là, tu voulais nous faire une petite sélection de 2 smartphones Android.
Écoute, ouais, 2 de mes coups de cœur de cette année. Alors, ce n'est pas forcément les meilleurs smartphones ou quoi. En tout cas, moi, c'est ceux qui m'ont le plus marqué et je trouve qui font des bonnes idées de cadeaux de Noël. La première, c'est les Pixel 8 et 8 Pro. Moi, je suis un gros fan de la gamme Pixel depuis des années. C'est vrai que je trouve que c'est une très bonne alternative à l'iPhone. Ils sont peut-être un peu moins désirables dans les yeux du public, mais moi, je trouve qu'ils sont quand même formidables. En termes...
On est d'accord.
Alors, j'allais dire de rapport qualité-prix, c'est vrai que là, c'est un petit bémol sur les derniers, parce qu'ils ont quand même bien augmenté les prix. Hein. Ils se sont fait plaisir. Là, le 8 Pro, il est à 1000 euros. Et
le 8 Pro. Et 899 ou quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça. Mais bon. Donc, ça commence à taper un peu aussi. Avant, ils étaient quand même beaucoup moins chers.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est quand même des très bons téléphones. Je trouve que c'est intéressant. Alors, sur la dernière version, sur les 8 et 8 Pro, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que c'est les premiers smartphones qui se mettent dans l'étape d'après, c'est-à-dire les téléphones avec intelligence artificielle inside. Ça va être le gros argument commercial de tous les smartphones dans les mois qui viennent. Et Pixel a été le premier à prendre ça à bras-le-corps avec tous les systèmes de montage vidéo, de « je prends des selfies et je peux intervertir la tête de l'une et de l'un et de l'autre ». Enfin, il y a plein d'outils hyper malins et hyper sympas.
Il y a eu des polémiques d'ailleurs sur ce sujet.
Ouais, bien sûr, parce que attends, tu peux vraiment truquer des photos hyper facilement. Enfin, il va y avoir des vrais sujets autour de ça, mais je trouve qu'il est intéressant. Je parle en fait de la gamme Pixel plus généralement parce que moi, mon mon astuce pouvoir d'achat, ce serait de dire aux gens, tabler sur les Pixel des années précédentes, Pixel 7 et 7 Pro, voire Pixel 6A, qui sont des très bons téléphones oui, et qu'on trouve aujourd'hui à beaucoup moins cher. Le 6A, tu dois le trouver autour de 300 aujourd'hui, quelque chose comme
7A,
ça.
Le 7A le est 7A. Sans doute le meilleur appareil photo sur du milieu de gamme et on le trouve à 300-350. C'est un appareil qui fait des photos magnifiques. Après, moi où je mets un bémol souvent, où je préviens, parce que c'est pareil, moi c'est un de mes téléphones préférés, sachez que c'est une photo qui est faite à l'IA. Oui. Donc, qui dit photo à l'IA dit aussi que si vous aimez les effets ombre-lumière, vous oubliez parce qu'ils corrigent tout. Mais en revanche, si vous cherchez la photo parfaite, portrait.
Et tu peux débrayer tout ça ou pas ?
Non, c'est le fond. Alors, sur le 8 Pro, oui, parce qu'il y a un mode pro, justement, avec des réglages manuels. D'accord. Mais on n'achète pas un pixel pour ça, en fait. Pixel. Quand on le fait en connaissance de
cause.
C'est-à-dire
que c'est pour les vrais photographes, ce n'est pas le téléphone qu'il faut. Parce qu'il va tellement faire l'IA.
Le 8 Pro.
L'IA est tellement puissante, en fait, qu'elle va. Dénaturer la réalité.
Oui, mais l'IA apporte en effet beaucoup d'avantages. La retouche photo, comme aucun autre smartphone, honnêtement, alors on en rigole, mais la possibilité de prendre un groupe, enfin on a tous essayé de faire des photos de groupe où c'est une catastrophe, où il y en a un qui regarde à droite, l'autre à gauche, un qui a les yeux fermés. Là, l'IA est tellement puissante qu'elle va prendre une multitude de photos, enfin elle va récupérer une multitude de photos que vous avez prises, être capable de comprendre que c'est la même scène, et vous proposer le meilleur visage de chacun. Mmh. Alors là, au niveau photo truqué de groupe, on est génial.
C'est ça. Mais ça
permet ça. On le dit, là, ils vont amener Bard, donc leur équivalent ChatGPT, dans un smartphone. Ça va être les premiers parce qu'il a la puissance pour. Donc, pour une fois, c'est la seule fois où je défends un prix très élevé. Le Pixel 8 Pro est un smartphone qui promet 7 ans de mise à jour. Aujourd'hui, c'est un smartphone que vous achetez 1 100 €, qui, dans 7 ans, sera encore à jour. À part l'iPhone, il n'y a aucune autre marque qui fait ça.
Oui, mais attention, je crois qu'il y a des mises à jour de sécurité. Il y a pas. Non, il y a
7 ans d'Android.
C'est sûr, 7 ans. C'est pas 5.
C'est les premiers à 7 ans.
D'accord.
Et de sécurité derrière, c'est les premiers. Parce qu'eux, ils le font. Ils ont Android.
Donc, 7 versions d'Android.
Oui, à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est à partir de la 14. Tu vois, enfin, c'est toujours. C'est 6.
Impressionnant.
Non, c'est pas mal.
Donc, ça, c'est pas mal. Ça justifie le prix, comme sur les iPhones aussi. C'est un élément à prendre en compte.
Donc, c'est vraiment. Pour moi, c'est un de mes coups de cœur de l'année, très clairement. L'autre, alors, je ne vais pas y passer des heures, mais j'aime beaucoup aussi la gamme Redmi de Xiaomi. On parlait de rapport qualité-prix. Enfin, je veux dire, c'est un gros enjeu pouvoir d'achat. Très clairement, et là on est sur des téléphones à moins de 200 € pour le coup, qui sont hyper qualitatifs aussi. En fait, ce qui est hyper intéressant, je trouve, on a déjà eu l'occasion de le dire dans des QGMM, mais l'évolution en termes de specs sur les smartphones a été tellement énorme ces 2-3 dernières années qu'en achetant aujourd'hui, alors un téléphone à moins de 200 €, vous avez des specs qui sont équivalentes à un super super bon téléphone haut de gamme d'il y a un ou deux ans.
Ouais, oui. Bon,
quand même, si. Enfin,
on trouve avec. Je suis bien.
Un truc pas mal, on va dire. Voilà. Et en achetant même un téléphone, encore une fois, même si tu ne prends pas le 12, mais que tu prends le 11 ou le 10, tu vas avoir un truc qui est tout à fait correct. Enfin, encore une fois, tout dépend de l'usage que tu en as. Mais pour monsieur et madame tout le monde qui va s'en servir pour prendre des photos de vacances et les mettre sur Instagram, faire répondre à ses mails, faire un petit peu de bureautique et jouer à 2-3 jeux casual,
bien sûr,
mais
ça
c'est formidable. Ouais. Après, oui, si tu veux jouer à Resident Evil Village, tu vois, là, c'est plus compliqué, évidemment. Ouais. Mais c'est pas le cas de tout le monde, très clairement. Mais
en tout cas, pour le casual gaming, ce que font 99% des gens avec leur smartphone, ça suffit en plein
moment. Mais la gamme Redmi Note, c'est une excellente gamme.
Ça fait des années que c'est le cas. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont une espèce de légitimité dans cette gamme de prix, de rapport qualité-prix qui est incroyable.
Voilà. Mais après, je mets juste toujours je préviens toujours les gens, ça annonce toujours des specs super, un écran AMOLED, des choses. Sachez qu'un écran AMOLED sur un milieu de gamme n'est pas un écran AMOLED sur du haut de gamme, quand même. Il faut quand même le dire.
Bien sûr.
Il faut rappeler que ce n'est pas la qualité dalle, mais ça n'empêche rien. Ces téléphones sont super pour le prix. Honnêtement, on a quand même de la qualité et souvent, c'est sur l'autonomie qu'ils sont très, très forts. Sur l'autonomie et la photo, ils sont très forts.
Sur la recharge.
Et sur la charge, on tombe sur des charges où en 15 minutes, le téléphone est rechargé. C'est quand même pas mal.
En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir le différentiel de prix par rapport au différentiel de qualité.
C'est ça, en fait.
Le rattrapage qui est énorme. C'est-à-dire que les téléphones très haut de gamme, bon, iPhone et les autres, sont maintenant autour de 1500. La qualité est évidemment là, mais la qualité n'est pas telle que tu peux pas avoir un téléphone à 300 ou 400 € ou même parfois moins. Ils sont pas très très loin en termes de qualité, mais par contre le prix est très 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 bas par rapport à ça. Donc,
la différence n'est pas proportionnelle à la différence de prix. Voilà. Là, je suis tout à fait d'accord.
Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et j'ai l'impression qu'avec les années, cet écart se réduit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des composants qui ont 2 ou 3 ans, donc qui sont d'excellente qualité sur des smartphones à 300 euros. Mm-hmm. Et ça, c'est top. Ça permet d'avoir, de se dire, tiens, j'ai pas 1000 euros à investir dans un téléphone, j'ai 300 euros, j'ai un truc qui tient la route. J'ai pas honte de sortir mon téléphone, j'ai pas honte de faire des photos, j'ai pas honte de faire des selfies, j'ai la 5G. Je peux l'utiliser comme un téléphone haut de gamme, quoi. Et ça, c'est super. Top.
Je te fais un package vite fait.
Package vite fait avec... Non, mais j'aimerais qu'on prenne le temps sur la manette PlayStation, parce que c'est vraiment quelque chose de... Tu nous en avais parlé il y a quelques mois, elle n'était pas encore sortie. Ouais. Là, ça y est, elle arrive.
Elle est enfin disponible. Alors, évidemment, je vais parler à peu de joueurs, mais c'est pour moi, à mon avis, extrêmement important d'en parler parce qu'il n'y a pas de raison. Ceci, c'est une manette PlayStation. On reconnaît le look PS5 blanc et noir, mais c'est une manette d'accessibilité. Elle s'appelle Access, d'ailleurs, comme elle porte bien son nom. C'est-à-dire qu'elle est destinée à des joueurs qui ne peuvent pas se servir de la DualSense de la PlayStation de manière facilitée, parce que ça représente quand même aujourd'hui très nombreux joueurs qui ont des handicaps divers au niveau de la motricité et qui ne peuvent pas se servir des boutons parce que c'est trop petit, c'est pas facile. Microsoft a démocratisé vraiment le marché avec Logitech pour les accessoires il y a des années.
Hop là, comme ça je la montre.
Peut-être la décrire pour ceux qui nous écoutent, parce que ça ressemble pas du tout à une manette.
Franchement, celle de Microsoft était rectangulaire et ressemblait à un gros pad. Celle-là est ronde. Alors pour moi, ça a été la première interrogation, parce que je travaille beaucoup sur l'accessibilité, et d'avoir une manette en forme de soucoupe volante, honnêtement, je trouvais ça étrange avec la rangée de boutons tout autour. Je me suis dit, bizarre d'aller chercher, c'est pas forcément le truc le plus ergonomique quand on a des problèmes de motricité. Il y a avec un joystick, comme on entend, si on ne voit pas.
On sent que c'est ingénieux, en tout cas.
Qui s'ajuste et qui se bloque à la distance nécessaire.
Tu veux voir ?
Ça, je trouve cette idée remarquable. On peut changer l'embout, donc on peut mettre ou des gros joysticks comme les façons Burn Arcade, ou des petits boutons. Ça, je suis plus sceptique sur l'utilisation d'un petit bouton comme les joysticks classiques de la DualSense, je trouve ça trop petit. Mais voilà, il y a surtout, c'est livré avec toute une gamme de boutons divers et variés, de toutes les formes. Ça, je trouve ça absolument super.
Donc, tu peux, c'est modulable, en fait.
En fait, tu peux tout retirer. Vas-y, tu peux retirer, ça cassera pas.
Ah, tu peux enlever les boutons.
Tu les retires et en fait, tu les changes.
Ah ouais, c'est comme un Lego, en fait.
C'est comme un Lego.
Et tu vas adapter les boutons à
ton handicap, en fait.
Voilà, tu adaptes en fonction de ce qui était nécessaire. Et surtout, c'est livré avec... Alors voilà, ça a l'air très drôle, là, comme ça. Ça, c'est toutes les boutons, en fait, pour se souvenir à quoi ça correspond, quelle touche correspond à quoi. Donc, on personnalise. Cette manette est ultra personnalisable.
Parce que c'est la question qu'on se pose, les personnes qui sont en situation de handicap ont testé cette manette, ils ont des retours, tu as des retours.
Alors moi, j'ai commencé à en avoir, à en prendre, justement. Alors, ce qu'on se disait, c'est que c'est très bien pour des handicaps un peu légers de motricité, parce que justement, le côté rond, c'est plus facile. On peut brancher une manette DualSense et jouer, par exemple, avec... créer son profil pour cette manette-là. On peut créer jusqu'à 30 profils et 3 qui sont activables facilement d'un clic et jouer avec une manette en plus. Donc, on arrive sur un complément pour des gens. Les handicaps un peu plus lourds, en revanche, le côté rond n'est pas forcément facile d'un point de vue ergonomique. On peut brancher, comme sur la manette Xbox, il y a 4 portes jack. On peut rajouter des accessoires. Logitech en fait beaucoup qui sont de très bonne qualité. C'est pas énorme, 4. Très honnêtement, c'est pas énorme. Je pense qu'il y en a 20 sur la manette adaptative d'Xbox, pour vraiment rajouter des pads, des choses. Mais il y a une bonne idée, et surtout, c'est un domaine sur lequel PlayStation était tellement en retard. On parle de quasiment 10 à 20 millions de joueurs qui sont concernés. C'est pas rien. Il n'y a pas de raison que ces gens-là ne puissent pas jouer de la même manière sur toutes les consoles. Je trouve ça très bien. Je pense qu'elle est un petit peu limitative.
Tu peux jouer en mode compétitif, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est e-sport et ce genre de choses. Tu peux être aussi compétitif qu'avec une manette
classique.
C'est là-dessus
où je voudrais bien savoir, parce que je pense qu'elle est très réactive. Moi, j'ai essayé, mais je n'ai pas de handicap. Donc sur ces jeux-là, je ne suis pas gênée. Mais le fait que tu puisses, en revanche, vraiment personnaliser, configurer comme tu veux l'ordre des boutons, c'est très bien.
Tiens, il nous reste...
J'ai oublié de dire 90 euros.
90 euros. Ça, c'est bien. Mais il était temps que PlayStation rattrape son retard. Mon petit coup de cœur à moi.
On l'attendait.
Vous savez quoi ? L'histoire de mon coup de cœur commence au CES 2023. En me baladant dans les allées de ce CES, je tombe sur un stand avec un énorme logo Bird Buddy. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo ce truc-là. J'en avais entendu parler parce que à la rédac de BFM Business, Jean-Baptiste Huette, que tu connais bien, avait déjà ce petit gadget qui me faisait de l'œil. Et je l'ai vu. Et tu sais quoi ? Je me suis mis dans un coin et je l'ai commandé sur mon iPhone directement.
Je me souviens.
En crowdfunding, tu te souviens ? On était ensemble. Et ce produit, c'est rigolo parce que ça fait maintenant 6 mois que je l'ai. Et en général, les gadgets, tu t'en sers quelques semaines et puis après, tu laisses tomber. Là, je l'ai installé, je l'ai bien configuré et régulièrement, j'ai des petites surprises parce que je reçois des petites notifs avec les petits oiseaux qui apparaissent en fait dans la petite mangeoire. Parce que c'est une mangeoire à oiseaux connectés, on va expliquer ce que c'est, qui est assez maligne parce que elle est connectée au Wi-Fi de la maison. Elle a un petit toit en panneau photovoltaïque, ce qui fait que tu n'as même plus besoin de la recharger. Tu vois, alors moi, je l'ai installée sur ma terrasse. Là,
je rigole parce que les photos sont ouf.
Vous voyez pas derrière.
Et c'est les tiennes ou pas ?
Ça, c'est mes photos.
Mais oui, c'est
les photos. Génial. Voilà, j'habite pas loin d'ici, dans le 15e. J'ai la chance d'avoir une terrasse. J'ai installé ce truc-là. Et j'ai des petites mésanges bleues. Donc, il y a des mésanges bleues, il y a des moineaux qui viennent, il y a des merles aussi. Alors, les merles, on les voit pas souvent parce qu'ils aiment pas monter. En fait, les merles, et j'ai appris ça, mangent plutôt par terre et n'aiment pas monter sur une plateforme comme ça. Et alors, c'est tellement mignon. C'est tellement mignon. Et donc, finalement, il y a de la tech là-dedans parce que ce qu'il y a de fou, c'est que dès que vous avez un oiseau qui vient sur la mangeoire, la caméra le détecte. Je reçois une notification sur mon smartphone. Ça me fait une petite vidéo montée où on voit l'oiseau qui est en train de manger, etc., ou qui patouille dans le truc. Et en plus, il y a l'IA, c'est-à-dire que automatiquement, je vais recevoir une notif en me disant l'oiseau qui est venu, c'est une mésange bleue. C'est un moineau.
Génial.
Donc, il y a aussi toute une, on va dire, toute une pédagogie derrière ce gadget qui est très intéressante. Et en plus, tu peux partager toutes tes vidéos avec toute la communauté de Bird Buddy. Et il y en a, et ça, j'ai été bluffé, il y a des Bird Buddy partout dans le monde. Et tu tombes des fois sur des vidéos incroyables de perroquets qui sont dans ces trucs-là, enfin, des oiseaux exotiques. Et franchement, en plus, il y a toute une notion explicative sur le bien-être des oiseaux. Donc, il y a une notion aussi environnementale qui est plutôt cool. Franchement, cadeau sympa, c'est assez cher.
Voilà. C'est combien, vas-y ?
C'est dans les 300 euros.
Ah oui,
voilà.
Ouais,
c'est pas donné. Ouais. Mais franchement, je me suis fait plaisir. J'avais vraiment envie d'avoir ce truc-là et je le regrette pas. C'est très cool. Et je peux vous dire qu'à la maison, c'est vraiment la fête. Hein. Tout le monde regarde ce truc-là.
Vivement la prochaine trouvaille CES 2024 de François.
Ah oui, c'est clair.
Ouais.
On en parlera à Noël prochain, du coup.
Oui, voilà. Bah, écoutez, peut-être qu'au CES 2024, je trouverai mon coup de cœur Noël 2024. les amis, on va se retrouver pour le module bonus de quoi je me mêle, parce que je sais que vous en avez encore sous le pied et moi aussi. J'ai un petit coup de cœur à vous donner. Vous savez que ce module bonus, ça fait quelques semaines qu'on l'a mis en place. Il n'est disponible qu'en audio, que pour tous ceux qui téléchargent le podcast audio de quoi je me mêle. C'est notre manière à nous de vous remercier d'être de plus en plus nombreux à télécharger de quoi je me mêle en audio chaque semaine. Voilà, le module audio bonus, ce sera juste après Lionel Paris qui nous rejoint. On va parler de la TNT 4K qui arrive en France. On croyait la TNT morte. Eh bien non, les amis, ça devient aujourd'hui un vecteur d'image de qualité incroyable. On en parle avec Lionel tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Et puis je vous rappelle aussi qu'il y a toujours ce petit module bonus qui vous attend exclusivement pour le podcast audio. Voilà, si vous voulez avoir quelques petits coups de cœur et cadeaux de Noël avec Mélinda et Anthony, ce sera exclusivement en podcast audio. Dans l'immédiat, que vous soyez avec nous sur BFM Business, sur la plateforme Tech & Co, mais aussi sur YouTube, je suis ravi d'accueillir Lionel Paris. Salut Lionel.
Bonjour François.
Notre expert tech qui a enquêté sur la TNT.
Mais oui.
La télévision numérique terrestre, on s'apprête à vivre une vraie révolution dans la TNT avec l'arrivée de la 4K.
Mais oui.
Voilà, qui est un mode de diffusion qui est universel, on va dire, totalement gratuit. Il faut le signaler.
C'est important.
Il faut le signaler, c'est totalement gratuit et qui permet d'avoir une super qualité d'image aussi. On a tendance à l'oublier parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les box, avec les applis connectées, aujourd'hui, on n'utilise même plus d'antenne TNT. Peut-être à tort, mais on va en parler. Mais pour débuter, tu voulais un petit peu revenir sur l'histoire de la TNT ?
Bah oui, parce que si tu veux, la TNT, finalement, elle a 18 ans. Donc, comme j'ai tendance à le dire, à 18 ans.
Elle est majeure.
Elle est majeure. C'est un ado qui a bien grandi. Il y a eu 3 itérations de technologie à l'intérieur de la TNT. Et ce qu'on connaît aujourd'hui, même pas encore en 4K, et là, c'est en train d'arriver, on va en parler. Je veux dire, c'est quand même fondamentalement différent avec ce qu'on a connu dans le passé, avec cette fameuse télévision analogique.
Où,
je le rappelle, ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui, mais on avait 6 chaînes. Quand tu habitais dans le sud, tu avais de la chance de pouvoir capter les chaînes frontalières. Je cite Télé Monte Carlo, par exemple, pour les gens du sud-est. Ou je cite les gens qui habitent dans le nord-est, tu avais RTL 9. Les gens qui pouvait capter aussi les chaînes frontalières à l'époque, parce que c'est pareil, en Nord-Pas-de-Calais, en Ardennes, on avait les chaînes de la Belgique, en Alsace et en Moselle, on avait l'Allemagne, dans les Pyrénées, on avait les chaînes espagnoles, enfin voilà. Mais le paysage télévisuel français était quand même très réduit.
Ouais, très réduit. Et puis d'un coup, voilà, le numérique est arrivé, il a tout changé. Hein. Voilà, d'un coup, on s'est retrouvé avec 20 chaînes, après 30, enfin voilà, quoi, et avec une super qualité.
Ça a évolué d'un point de vue technologique, c'est-à-dire tu as eu une amélioration de la qualité. La TNT qu'on connaît aujourd'hui, c'est la deuxième génération, hein, donc qui est capable de nous sortir alors, du 1080i. Alors souvent, les gens ne comprennent pas trop c'est quoi ce i.
Oui, parce qu'en général, quand on parle de 1080, c'est P.
Oui. Et donc, pour expliquer ça vraiment, mais très simplement...
C'est la définition de l'image. Hein,
en fait, le 1080i, c'est au lieu d'envoyer 50 images secondes, qui est la définition du P, si tu veux, très rapidement, tu as 25 images qui s'affichent et 25 images qui s'enlèvent. Et 25 images qui s'affichent et, 20... et ça balaye comme ça. Et ça va tellement vite que toi... Tu ne le vois pas.
D'accord.
Par contre, ça a une incidence énorme sur le tuyau qu'on utilise et le débit dont on a besoin pour afficher cette image. Mais cette image 16/9 1080i qu'on connaît aujourd'hui, bon, elle date d'octobre 2008.
Oui.
Donc ça, ça a été...
C'était le lancement de la TNT HD.
HD, voilà.
Donc, passé en MP4 d'ailleurs
à l'époque. Voilà, c'était le gros mouvement technologique, passait en MP4. Il n'y avait que 4 chaînes, alors ça fait toujours sourire quand je dis ça aujourd'hui, mais c'est vrai qu'au lancement, il n'y avait que 4 chaînes capables d'être dans cette résolution. Les autres étaient encore restées en définition standard. Et ça a pris une dizaine d'années. Il y a eu un deuxième lancement en 2016, où là, on a une deuxième vague d'ajout de chaînes. Et je rappelle qu'à l'époque... nos télévisions n'étaient pas forcément compatibles.
Ouais, c'est ça. Et puis donc maintenant, aujourd'hui, les télévisions évoluent. Le parc de téléviseurs 4K grossit. Hein.
Oui.
Aujourd'hui, voilà, vous achetez une télé, même à 300 euros, elle est 4K.
Oui, oui, oui.
Et à partir du moment où vous achetez une télé 4K, elle a un tuner qui est compatible avec la 4K. C'est ça qui est intéressant.
Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que finalement, 2016, c'est pas si vieux que ça, mais en même temps, c'est long. Mais l'avantage de ce mouvement-là, c'est qu'à l'origine, on a eu besoin de rajouter des décodeurs externes. Parce que nos télés n'étaient pas capables de décoder ce signal.
Il fallait
très
un boîtier supplémentaire.
Il fallait des boîtiers externes, si tu te souviens. Ça coûtait une cinquantaine d'euros, il fallait rajouter ça sur les télés. Il y avait eu à l'époque aussi des changements d'infrastructure hertzienne. Il a fallu aussi changer les antennes.
Oui.
Tout ça n'est plus d'actualité, puisque ces fondamentaux-là ont été conservés. Par contre, là où ça va changer, c'est la manière dont ils utilisent cette bande passante. Et on va avoir une migration et à la fois en termes technologiques, c'est-à-dire comment on restitue cette image. On augmente la résolution, on passe en 4K, mais on oublie ce signal entrelacé. On passe sur un signal qui est très propre puisque c'est du 50 images secondes. Et ça, c'est la première fois dans l'histoire de la TNT que ça arrive.
Ouais.
Donc, il y a la résolution, il y a ta cadence d'image. Et bien évidemment, il y a l'HDR qui va t'amener une dynamique d'image qu'on n'a jamais vue sur la télévision aujourd'hui, mais qu'on connaît. Parce que tous les services de streaming, aujourd'hui, ça fait des années qu'ils nous envoient du contenu non seulement en 4K et en HDR. Donc on avait un peu se décalé aujourd'hui. Quand tu passes de la télé à un service de streaming, tu dis « Ah oui, c'est mieux quand même, il y avait... » Eh bien, ce décalage technologique va être gommé.
Oui, c'est ça.
Avec l'arrivée de la 4K TNT, on va avoir vraiment... une qualité d'image, mais j'ai envie de dire vraiment meilleure que ce qu'on arrive à avoir en streaming aujourd'hui.
Oui, parce que c'est ça qui est intéressant. On en parlait justement quand on préparait ce rendez-vous. Moi, j'ai testé, parce que comme vous tous, j'imagine, moi, je ne me sers plus de la TNT, en fait. Hein. On a MyCanal, ou enfin, on passe par la box de son opérateur. Mais quand j'ai appris qu'à Paris, notamment, il y avait deux chaînes, il y avait France 2, et on va en parler, France 3, qui passait en 4K, je me suis dit, tiens, je vais brancher une antenne TNT. Et chez moi, j'ai un petit, toute petite antenne comme ça, TNT. Bon, faut dire que je ne suis pas très loin de l'émetteur de la Tour Eiffel, tu vois. J'ai branché ça, j'ai refait mon scan et je me suis retrouvé avec, une qualité d'image, mais même en TNT traditionnelle, que j'avais oublié.
Oui.
Et finalement, le top du top, en termes de transmission, de qualité d'image, si aujourd'hui vous voulez regarder un match de foot, ou même, ça va même jusqu'à la Starac, vous mettez en TNT sur TF1, vous avez une qualité d'image, vous n'êtes pas en 4K, mais vous êtes en 1080. Et je trouve que la qualité est vraiment meilleure que ce qu'on voit sur les box opérateurs, même sur des applis comme MyCanal, où l'image est vraiment très compressée. et on voit la différence.
Bah, je pense qu'il y a une belle maîtrise. Déjà dans la TNT HD, donc celle qu'on utilise actuellement, il y a une très belle maîtrise de la compression MP4.
Ouais, c'est ça.
Et il y a un historique qui fait que vraiment, il y a une image qui est léchée, qui est fine et qui sort très très bien. Mais là, pour donner un ordre d'idée, ce qui a été annoncé récemment, c'est qu'en termes de débit, aujourd'hui, le tuyau qu'ils vont utiliser, en utilisant donc un codec qui est différent, parce que là, on vient de changer de norme, on va passer en DVB, qui est la norme de télévision de diffusion, en T2. Et donc cette norme-là, aujourd'hui, dans l'appel d'offres qu'a fait partir France 2 et France 3, le débit demandé, c'est 35 mégas. Bon, pour te donner un ordre d'idée, un flux stream aujourd'hui, c'est 25. Donc déjà, tu vois, on part avec un débit, qui est un tuyau qui est 10 mégas plus grand.
Oui, oui.
Avec une technologie de compression qui est très récente, qui est le HEVC, qui est connu dans le monde de la 4K et de la très haute définition. Si tu associes cette compétence que la France a sur cette diffusion, plus ce codec, plus le débit, c'est évident qu'aujourd'hui, la qualité qu'on va avoir l'année prochaine, il faut remercier les JO.
Ouais.
Parce que clairement,
ça a été l'accélérateur de tout. Hein.
Ça a été ce qui a déclenché tout les derniers mois. Là, il y a une succession jusqu'à le 11 décembre. France 2 UHD et France 3 UHD. Tout ce qu'il vous reste à faire, si vous voulez tester, c'est prendre la télécommande de votre télé, faire une recherche de canaux, et vous allez trouver deux chaînes qui sont la 52 et la 53.
Et qui sont en 4K.
Qui sont en 4K. France 2 va rester en 4K natif avant les JO, pendant les JO, et a priori même après les JO. France 3 fera de l'upscaling de définition. Donc il y a deux choses qui vont se passer en simultané. Ça ne veut pas dire qu'on va passer du jour au lendemain toutes les chaînes de la TNT en 4K, ça c'est pas vrai. Mais là, c'est l'étape 1
ouais.
pour pouvoir profiter d'une captation en 4K pour les JO et surtout d'une diffusion en 4K pour les JO.
Ouais, donc ça veut dire que les JO seront diffusés gratuitement sur France Télé
oui.
en 4K.
Oui.
Et ça, c'est top quand même.
Et comme le disait, il y a les contraintes fortes qui sont liées à la captation d'images qui sont rapides en mouvement. Il y a une parfaite adéquation entre ce qui est en train de se passer en termes technologiques et ces événements. Et c'est pour ça que le sport, de manière historique, tu le sais,
oui, bien sûr.
A toujours été un élément qui est très fédérateur en termes d'audience. Mais surtout, ça demande
c'est
des images
technologiques
qui soient réactives.
Et c'est intéressant parce que c'est un sujet qu'on évoque souvent et depuis longtemps. La TNT 4K, je m'en souviens, on avait fait des reportages à l'époque. C'était en 2014 à Roland-Garros où c'était la première expérimentation de retransmission de matchs de Roland-Garros. En 4K via la TNT.
C'est
donc ça remonte il y a 9 ans.
Ben, 9
c'est
ans,
fou,
quasiment 10 la semaine prochaine, si tu veux. Alors, on peut se dire que ça a été long. Mais la bonne nouvelle, c'est que nos télés, finalement, elles sont déjà équipées de ces tuners.
Donc j'ai une télé qui a 3-4 ans, elle
tranquille,
est compatible avec la TNT 4K.
Tranquille, la plupart des télés 4K sorties depuis 2013 ont ce fameux tuner DVB-T2.
Donc on ne va pas obligé d'acheter une nouvelle télé. Quoi.
C'est ça, on ne va pas revivre ces migrations technologiques qu'on a vécues entre la première et la deuxième génération de la TNT, puisque finalement le parc qu'on a aujourd'hui le supporte. Et d'ailleurs le gouvernement a annoncé un arrêt définitif de la TNT HD, celle qu'on connaît aujourd'hui, donc la bascule totale vers la 4K pour 2029. Parce qu'ils estiment qu'à ce moment-là, le parc de télévision en France sera à peu près équipé à 95%. Et pour eux, c'est le métrique qui a déclenché toutes les bascules qu'on a connues précédemment.
Après, la question, c'est de se dire, est-ce que les autres chaînes vont suivre? Est-ce que TF1, M6, notre groupe, Altice Média, BFM TV, AMC Découverte et AMC Story,
c'est prévu déjà.
Vont passer en 4K?
Il y a un calendrier de déploiement. Alors, tu te doutes bien qu'il y a plusieurs étapes parce qu'il faut moderniser la partie transmission. Parce que la partie transmission, les fameux multiplex, si tu veux, ont besoin d'être modernisés. Ils ont aussi besoin d'obtenir une fonctionnalité, le mot magique de la TNT 4K, ça s'appelle HD Multicast. C'est-à-dire aujourd'hui, là, on a France 2 en HD et France 2 en UHD, mais il faut passer sur le canal 52. Dans un futur très proche, donc avant
ça
les
JO. Ça sera automatiquement.
Wow. T'imagines technologiquement, c'est-à-dire que
Tu vas te mettre sur France 2 et automatiquement
et lui,
ta télé, il va détecter
la capacité de ta télé, il va passer en 4K ou en HD.
Génial.
C'est vraiment.
Et ça, c'est avant les JO?
C'est annoncé avant les JO. Elle aurait dû même être disponible pour le test qu'on est en train de voir, parce que clairement, ce que vous avez aujourd'hui, c'est un test, même si la diffusion, elle est réelle, elle est là. Mais c'est un test grandeur nature. On a eu des tests depuis 3-4 ans. Tu avais ces fameuses chaînes test UHD 1 et 2, mais qui ne diffusait pas des programmes de télévision, mais des bandes-annonces, si tu veux. Mais pareil, dans des qualités de diffusion, t'avais, ça
ouais,
te donnait
ouais,
une
on
très
voyait
bonne
qu'il s'amusait
idée
à,
que
à...
le rendu allait être très sympathique.
Ouais. Ouf. Ça, c'est pas mal. En revanche, tu disais, il suffit que je prenne ma télécommande et que je fasse un refresh.
Détection des chaînes.
Mais est-ce que c'est partout en France qu'on aura cette TNT 4K ?
Alors, étape numéro 1, 11 décembre, c'est vraiment Paris et région parisienne. Désolé pour les provinciaux qui nous écoutent, mais il y a un calendrier de déploiement où tous les mois, parce qu'il y a quand même 2200 émetteurs en France, hein. Donc les 2200 émetteurs hertziens en France de la télévision vont devoir petit à petit être tous
passer
mis
en 4K.
À jour.
Bah oui. Donc ça veut dire que d'ici les JO, parce que les JO c'est demain, hein,
alors,
ça arrive en juillet,
pour
on va dire que la majorité des Français pourront recevoir la 4K via la TNT gratuitement.
Oui, c'est il y aura une pour les JO, donc à partir du 26 juillet, tu auras ça partout en France sur ces deux canaux-là, pas de problème. Et le 70% est annoncé au premier trimestre. Donc là, on démarre, premier trimestre 70,
ah ouais, donc là, ça
va aller très vite.
Et ça va booster, là.
Ça va aller très vite,
c'est
mais
clair.
Je trouve que c'est, là, pendant les fêtes de fin d'année, essayez, faites un scan de chaîne.
Ouais, si vous êtes à Paris, en tout cas dans la région parisienne.
Ça vaut le coup de tester, vous verrez les émissions du Prime avec une qualité que vous n'avez jamais vue. La télévision, ouais. N'oublions pas que c'est beaucoup plus économe. Alors, tout le monde est très sensible à ce sujet cette année. La TNT, c'est quand même beaucoup plus économique en termes de consommation d'énergie.
Et bien sûr.
Que lorsque tu allumes ta box ou lorsque tu utilises un boîtier externe.
Ouais, ouais.
Donc, du coup, tu n'utilises qu'un seul produit qui est ta propre télévision, qui est reliée à un réseau.
Et puis, de problème de congestion, etc. Hein, le broadcast, rappelons-le, c'est un émetteur, tu captes un signal et puis tout le monde a la même qualité.
C'est linéaire. Il y a
une personne ou 100 millions, ça marche de la même manière.
Voilà, donc
c'est ça qui est top.
C'est économe. C'est durable,
ouais.
C'est gratuit, tu n'as pas besoin d'abonnement.
Et voilà, et franchement, pour l'avoir testé, c'est sans doute la meilleure qualité qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est fou, hein, on disait la TNT enterrée, eh ben, peut-être pas
non,
si vite que ça.
Non, je crois pas, non.
Pas
après
si vite
l'avoir
que
vu,
ça.
Moi, je peux vous dire, allez-y, c'est sympa.
Et puis la prochaine étape, et ça commence aussi, c'est la radio, hein, qui est numérisée de la même manière avec le DAB+, etc.
DAB+, ouais, tout à fait.
Et les radios et les chaînes qui s'enchaînent un peu partout avec une couverture qui augmente très très vite. Merci Lionel, passionnant ce sujet.
Merci
voilà, si vous êtes dans la région parisienne, si vous avez une télé récente,
voilà.
Faites un petit scan pour voir ce que ça donne France 2 et France 3 en 4K, ça vaut vraiment le coup.
C'est ça.
On voit vraiment la différence. Merci.
Merci, bonne fête de fin d'année à tous et joyeux Noël.
Voilà, ce De Quoi Je M'appelle est terminé. Encore une fois, très bonne fête à vous. Et puis si vous êtes avec nous en audio, on se retrouve avec le retour d'Anthony Melinda pour le module bonus. À très vite et on sera de retour pour vous tous tout début janvier pour le retour de Quoi Je M'appelle. Salut à tous.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.